de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, samedi 30 novembre 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre mission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. L'heure suivante, vous allez écouter également l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. Et après, nous allons présenter magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette mission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ASEAN publie le rapport de sondage sur la sensibilisation de l'ASEAN. Erdogan a reçu la visite de Prabowo dans l'enceinte présidentielle. L'Indonésie encourage les femmes afghanes à devenir des négociatrices pour la paix. Le renforcement de la coopération du ministère de la Main-d'œuvre avec les pays du Pacifique Sud. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative s'est engagé à rendre le meilleur événement de MotoGP Mandalika dans le monde. À partir de 2023, l'Indonésie mettra fin à l'approvisionnement en gaz vers Singapour. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ASEAN publie le rapport de sondage sur la sensibilisation 2018 au secrétariat de l'ASEAN, Jakarta, vendredi. Dans son allocution à Jakarta vendredi, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la communauté socioculturelle, Kung Puak, a déclaré que le sondage s'était déroulé d'octobre jusqu'à décembre 2018 et a été soutenu par le gouvernement japonais, par le Fonds d'intégration Japon-ASEAN. Le sondage vise à mesurer la compréhension générale et la perception du public à l'égard de l'ASEAN et peut être une ligne directrice pour développer des stratégies de communication dans l'avenir. Les conclusions du sondage sur la sensibilisation de l'ASEAN nous guideront dans l'élaboration d'une stratégie de communication de l'avenir qui peut résonner davantage dans notre société à différents âges et à différents niveaux de revenus. Cela renforcera également la mise en œuvre de plusieurs initiatives clés dans les années à venir. Kung Puak a déclaré qu'en 2020 a été défini comme l'année de l'identité de l'ASEAN, où le secrétariat de l'ASEAN organiserait diverses activités telles que la culture, l'éducation, les sports, la jeunesse et des autres. Selon le rapport de sensibilisation de l'ASEAN de 2018, 76% des personnes interrogées connaissent l'ASEAN. Le sentiment d'appartenance dans la région de l'ASEAN est également élevé, 9 répondants sur 10 s'identifiant comme citoyens de l'ASEAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu la visite du ministre indonésien de la Défense, M. Prabowo Subianto, jeudi au complexe présidentiel à Ankara. Selon le site web officiel du président turc, vendredi 29 novembre, la réunion a également été assistée par le ministre de la Défense, Hulusi Akar, et auparavant, Prabowo a été accueilli par Hulusi dans une cérémonie militaire organisée au ministère de la Défense. Ils ont également mené une discussion privée. Cité par l'agent de presse Anadolu, la question de la sécurité et de la coopération dans le secteur de l'armée et de la défense est un point important discuté par les deux ministres de la Défense. Jakarta et Ankara ont coopéré pour améliorer l'industrie de la défense. Le fabricant de produits militaires indonésiens, PT Pindad, et le fabricant turc de véhicules blindés, FNSS, ont signé un accord de coopération pour la production de prototypes de chars moyens et les deux pays ont également collaboré à la production d'avions sans pilote. L'Indonésie encourage les femmes afghanes d'être plus actives en tant que médiateurs et négociateurs dans le pays de la Sud-Sud. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, considère que les femmes, y compris les Afghanes, jouent un rôle important de créer la paix inclusive. La ministre Retno Marsudi, lors de l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement indonésien et les femmes afghanes à Jakarta vendredi, a déclaré que le dialogue était très important entre les Afghans, notamment entre les femmes afghanes de divers milieux, parce qu'elle estimait que les femmes étaient les acteurs importants dans la création de la paix et du développement inclusif. À cette occasion, le gouvernement indonésien a invité au moins 38 femmes afghanes de divers milieux. Certaines femmes viennent des zones urbaines et d'autres viennent des zones rurales. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de la Mine d'Ofro accroît ses capacités et ses coopérations économiques avec les pays de la région du Pacifique Sud en aidant et améliorer les compétences en ressources humaines. Le ministère de la Mine d'Ofro a l'intention de donner l'assistance dans le domaine de l'amélioration des compétences des ressources humaines, de la sécurité et de la santé au travail et de la protection des travailleurs migrants. Cela a été déclaré le haut fonctionnaire du ministère de la Mine d'Ofro, Adriani, dans un communiqué de presse récemment à Jakarta. Pour cette raison, il est nécessaire de planifier soigneusement l'assistance en fonction des besoins des pays de la région du Pacifique du Sud. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, M. Wisnu Tama Kusubandio, est déterminé à faire de l'événement MotoGP en 2021 dans la zone économique spéciale de Mandalika, l'événement le plus prestigieux d'Indonésie et même le meilleur dans le monde. C'est ce qu'a affirmé le ministre Wisnu Tama lors d'observer les progrès du développement de la zone économique spéciale de Mandalika, notamment le progrès du développement du circuit MotoGP de Mandalika avec le gouverneur de Nusa Tenggara West, Zulkifli Mansyah, et la ministre adjointe du Tourisme, Angela Herliani Tanusudibyo, dans le village de Kuta, dans la région de Lombok Central récemment. Pour accueillir l'événement de MotoGP 2021 et pour accélérer les progrès du tourisme dans la zone économique spéciale de Mandalika, le ministère du Tourisme et le gouvernement local continueront à travailler ensemble pour améliorer les infrastructures. Comme rapporté par Antara, lié au développement du tourisme à Mandalika, le ministre a rappelé que la destination touristique doit avoir un impact direct sur la communauté environnante, notamment dans le secteur de l'économie créative. Le gouvernement indonésien essaiera de fournir du gaz naturel à Singapour à partir du Samsuban Block Corridor, qui est exploité par ConocoPhillips à Musi Banyuasin, dans le sud de Sumatra. Comme écrit par Business Indonesia, le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a déclaré récemment à Jakarta que le gouvernement souhaitait augmenter l'utilisation nationale de gaz naturel. L'un d'entre eux consiste à interrompre l'approvisionnement en gaz de Singapour via un pipeline dont le contrat expire en 2023 en détournant l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché intérieur. Selon le ministre Arifin, le gaz fourni à Singapour serait acheminé vers le pipeline Dumaiduri, puis acheminé vers Sumatra. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Banda Aceh. Jalaluddin, chef de l'Agence des travaux publics et de l'aménagement du territoire de Banda Aceh, a déclaré que le complexe de tombes de Syah Kuala à Gampong, village Deah Raya, district Syah Kuala, devait être transformé en une zone touristique de village religieux. Jalaluddin a déclaré mercredi que le gouvernement de la ville Banda Aceh intensifier le développement du secteur du tourisme local. Ainsi, le complexe de tombe de Sheikh Kuala devrait être aménagé à partir de la tombe, des bâtiments environnants et de l'amélioration de l'accès aux moyens de transport. Même le gouvernement de la ville envisage de construire un internat moderne dans la région de la tombe pour que les livres des grands ulémas de Banda Aceh puissent être exposés, lus et récités régulièrement tous les jours. Ensuite, l'info de Badung, Bali. Lors de l'inauguration du musée du contre-terrorisme et du centre sportif Prakasarusiragajita à Denpasar, le régent de Badung, Bali a déclaré mercredi qu'il soutenait et apprécier le développement du musée du contre-terrorisme et les divers efforts déployés pour éradiquer le terrorisme fait par la police régionale de Bali. Il y a plusieurs années, un certain nombre d'incidents terroristes avaient eu lieu à Bali. Le chef de la police régionale de Bali, l'inspecteur général de la police Petrus Reinhardt Golose, a également remercié les gouvernements des régions Badung et Gianyar, ainsi que le peuple balinais qui avait apporté son soutien à la construction du musée de contre-terrorisme et le centre de sport Prakasarusiragajita. La dernière info est venue de Blitar, Javaès. Un effort de reboisement a été mené dans le village Kemiri Gede, district Kesamben, dans la région Blitar. Les futurs mariés doivent soumettre des semences de plantes pour verdir la zone entourant le réservoir du village. La convention collective est en vigueur depuis 2015 et a été confirmée dans le règlement numéro 6 de 2016 sur la conservation de la nature dans les villages. Le chef de village Kemiri Gede, Hari Purnawan, a déclaré jeudi que, selon le système mis en place, les époux qui avaient présenté une lettre d'introduction du village seront nécessaires de remettre 4 graines de plantes. Le gouvernement du village ne facture pas de frais pour les futurs mariés. Pour la conservation de la nature, en plus de donner des plantes, les futurs époux vont libérer des oiseaux sauvages et semer du poisson dans la rivière. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 30 novembre. Le 30 novembre 1966, le jour de l'indépendance de la Barbade du Royaume-Uni. La Barbade est un pays insulaire situé à la frontière de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique. Résumant l'une des îles de Petite Antille, la Barbade est située à l'est du groupe. La Barbade est réputée pour son industrie touristique et est connue sous le nom de Petite Angleterre des îles des Caraïbes. Cela est dû à la forte influence britannique sur cette île. L'île de la Barbade est située à environ 2500 km au sud-est de Miami, aux États-Unis, et à 860 km de Caracas, au Venezuela. La Barbade a obtenu son statut d'autonomie gouvernementale en 1961 et son indépendance le 30 novembre 1966. Au début des années 90, le tourisme était devenu le secteur le plus important de la Barbade. Le 30 novembre 1988, la Journée internationale de la sécurité informatique. La Journée internationale de la sécurité informatique est un événement annuel mondialement reconnu, conçu pour informer les utilisateurs d'ordinateurs de l'importance de la sécurité informatique. La Journée de la sécurité informatique a débuté le 30 novembre 1988 lorsque l'Association de machines informatiques à Washington, D.C. essaie d'intégrer les problèmes de sécurité liés à l'informatique dans les problèmes de sécurité nationale. Depuis lors, la Journée de la sécurité informatique est devenue un événement mondial. Cet événement annuel a lieu le 30 novembre dans le monde entier, bien que certaines organisations choisissent de le commémorer le jour ouvrable suivant si cette date tombe dans le week-end. Le 30 novembre 2004, l'accident de Lion Air en Indonésie. Le 30 novembre 2004, l'avion MD-82 de Lion Air portant le code de vol GT-538 a glissé pendant son atterrissage à l'aéroport Adi Sumarmo de Solo, Java Central, et a tué 26 personnes. L'avion a décollé de Jakarta à Surabaya et a transité à Solo avec 146 passagers. D'après les résultats d'une enquête menée par le Comité national de la sécurité des transports, l'accident était dû au fait que la piste était inondée, de sorte que l'avion avait glissé et ne pouvait plus être contrôlé et glissé de la piste. Cette situation est également causée par une erreur du pilote qui ne suit pas les procédures d'atterrissage. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki yang selalu gundah menunggu wanita. Pantang menyerah, memikat wanita.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée Instinct masculin chantée par Samson. Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Écoutez maintenant la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici Mon Indonésie et en titre, Pertamina est prête à faire face à la transformation énergétique. La transformation de l'énergie doit être envisagée, y compris par les entreprises publiques au secteur pétrolier Pertamina. Comme l'a déclaré le directeur de la planification, des investissements et de la gestion des risques de Pertamina, Heru Setiawan, à la clôture du Forum sur l'énergie Pertamina 2019, PEF, à Jakarta, le mercredi 27 novembre dernier. Heru Setiawan a expliqué, Pertamina a préparé trois scénarios qui pourraient être réalisés. Tout d'abord, diriger l'entreprise comme d'habitude. Deuxièmement, capturer les désirs du marché. Troisièmement, diriger l'entreprise la plus respectueuse de l'environnement. Heru a ajouté que Pertamina avait préparé un plan à long terme qui était ajusté aux conditions et aux comportements des consommateurs. Selon Heru Setiawan, en élaborant une stratégie commerciale à long terme, Pertamina s'adaptera aux six tendances changeantes du secteur énergétique mondial. Les six tendances sont la décarbonisation, le consumérisme, l'électrification, la décentralisation, la numérisation et l'intégration. Cependant, pour faire face à la transition énergétique, Pertamina a déployé divers efforts, allant de la recherche à la construction d'une usine de batteries de véhicules électriques à la conversion de raffineries pour pouvoir transformer de l'huile de palme brute en carburant. Comme ce fut le cas à la raffinerie de Plaju, où Pertamina a commencé à transformer des produits dérivés de l'huile de palme brute en essence. En outre, Pertamina transforme les produits dérivés de l'huile de palme brute en carburant diesel à la raffinerie de Dumai et mène des recherches avec une société pétrolière basée en Italie, Eni, pour le développement de raffineries vertes. Massimo Trani, vice-président de la gestion des contrats de licence chez Eni, qui a assisté au forum, a déclaré que l'objectif d'Eni de convertir les raffineries conventionnelles en raffineries respectueuses de l'environnement et de préserver le climat, de stimuler la croissance économique et de réduire le gaz à effet de serre. Selon Trani, Eni s'est concentré sur la réduction des émissions en aval avec cinq piliers. L'un d'entre eux est le carburant renouvelable, à savoir la conversion du pétrole en biocarburant. Dans le même temps, Eni mène des recherches sur les sources d'énergie durable et développe l'utilisation du gaz naturel. Trani a expliqué, le gaz est en effet une énergie non renouvelable, mais elle est très abondante. Le gaz peut être utilisé pour les navires, les gros camions et d'autres véhicules sous forme de GNL à faible teneur en carbone. Un autre conférencier, Sundip Biswas, en tant que partenaire et responsable du département énergie en mer de A.T. Kearney, a déclaré que la transition énergétique apporterait un nouveau potentiel commercial. Par exemple, les véhicules électriques ont besoin de piles. Donc, la nouvelle énergie crée de nouvelles affaires. Arifin Rudianto, adjoint aux affaires maritimes et aux ressources naturelles de l'Agence nationale de planification du développement BAPENAS, a également exprimé ce sentiment. Il a dit que la transition énergétique était très urgente. L'énergie est un secteur qui génère des émissions de carbone, donc le gouvernement se concentre sur la réduction des émissions d'énergie. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
C'était une chanson intitulée « Je ne m'attendais pas » chantée par Ruth Sahanaya. Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant la cascade Deng Deng qui se trouve en province Jawa West. Tasikmalaya est une ville assez grande à Jawa West, mais ce n'est pas tout. Il s'avère que la ville surnommée la ville de Santri est très célèbre pour ses diverses attractions touristiques. L'un d'entre eux est le tourisme de cascade. La cascade Deng Deng est le nom d'une belle cascade située dans le village Caringin, Cikawung Gading, district Cipatujuh. Pour aller à la cascade Deng Deng depuis le centre de la ville Tasikmalaya à une distance d'environ 90 km, il faut environ 3 heures. Vous pouvez toujours monter à bord du véhicule jusqu'au village Cikawung Gading qui constitue la référence initiale pour cette cascade. Alors que l'entrée du village Caringin ne se trouve pas loin du bureau du chef du village. La route qui mène au village Caringin se trouve sur le côté gauche de la route. Le véhicule que vous utilisez ne peut vous conduire qu'au village Cikawung Gading. Ici, vous pouvez laisser votre véhicule dans la cour de la communauté. En outre, le voyage ne peut être atteint qu'en marchant, passant une petite rivière et des arbres de teck luxuriants. Habituellement, les guides sont des jeunes de la région. Après environ 30 minutes de marche, vous arriverez sur une route en pente assez raide. Vous serez surpris par la vue inhabituelle de la cascade. La cascade Deng Deng Tasikmalaya a trois niveaux. Ces niveaux ont des hauteurs différentes. Le niveau supérieur a une hauteur de 9 mètres, le niveau moyen a une hauteur de 11 mètres et le niveau le plus bas a une hauteur de 13 mètres. L'eau provenant de la cascade Deng Deng se déverse directement dans la rivière Cikembang. Les routes disponibles autour du site touristique sont celles de rizières. Vous pouvez regarder les belles feuilles de riz danser dans le vent autour de l'emplacement. Considérant que la route qui peut être empruntée est difficile, vous devez être très malin pour trouver le bon moment pour visiter cet endroit touristique pendant la saison sèche pour que votre voyage ne soit pas gêné par des routes boueuses et glissantes. De plus, si vous arrivez à la saison des pluies, la chose la plus effrayante est une inondation soudaine. La condition d'une large chute d'eau et un écoulement d'eau assez important impose une prudence supplémentaire. Utilisez les bonnes chaussures pour votre visite cette fois-ci et apportez suffisamment de matériel, en particulier d'eau potable. Un voyage plein de défis demande beaucoup d'énergie. Vous pouvez prendre de nombreuses photos intéressantes sur cette cascade Deng Deng. La cascade et les sites environnants sont toujours naturels, ce qui rend ce site touristique de Tasikmalaya magnifique et vous permettra de ne faire qu'un avec la nature. C'est le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était la troisième chanson chantée par Il n'y a pas de mots séparés, chantée par un chanteur qui s'appelle Rio Fabrian. Chers amis, écoutez maintenant la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur en format sur Nadiem Makarim qui est sur la liste Time Next 2019. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem Makarim, est entré dans la liste Time Next 2019 de la catégorie Leaders. Nadiem Makarim était la seule personnalité indonésienne à figurer sur la liste prestigieuse. Sur le site web officiel de Time, le nom Nadiem est décrit par la figure d'un homme d'affaires qui vient d'entrer dans les rangs du gouvernement du président Joko Widodo. Avant de devenir ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem a été directeur général de Gojek. Dans un rapport publié sur le site web Time, Nadiem, actuellement ministre de l'Éducation et de la Culture, est bien placé pour former les futurs dirigeants indonésiens. Selon Brian Harding, directeur adjoint du Centre d'études stratégiques et internationales cité par Time, Nadiem est un jeune homme d'affaires intelligent au sein du cabinet. On dit qu'il a beaucoup à jouer pour faire progresser la jeune génération à travers le système éducatif afin de faire de l'Indonésie la 16e plus grande économie mondiale. Nadiem fait partie de la catégorie des leaders, tandis que les autres catégories sont les artistes, les défenseurs, les phénomènes et les innovateurs. Dans la catégorie des dirigeants, Nadiem côtoie d'autres personnalités dans un certain nombre de pays, tels que le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, la figure étudiante vénézuélienne Rafaela Requesens, le jeune homme politique de Hong Kong Edward Leung et le homme politique du rallye national Jordan Bardella. Time publie Time 100 Next depuis 2004. Time 100 Next est une nouvelle liste de continuation de Time 100, les personnes les plus influentes, ou la liste des personnes les plus influentes lancée par Time depuis 15 ans. La liste était dominée par les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les acteurs et les dirigeants de fondations mondiales. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Kurenungkan
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la quatrième chanson intitulée « Quand l'ombre » chantée par Monita Tahalia. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie diffusée sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.wonews.id. Chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons magazine musical.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici magazine musical. Et cette fois, nous présentons une chanson de Kronchong intitulée Mahameru. Mahameru est le thème désignant le sommet du mont Semeru situé à Java de l'Est, dont l'altitude est 3676 mètres. Le mont Semeru est le troisième plus haut volcan d'Indonésie. Le courage du mont Semeru est ce dont on parle dans cette chanson. Le haut sommet divise le ciel bleu. Le mont Semeru qui se tient fermement montre également la perfection et la beauté de la création de Dieu. Les chansons de la chanson Mahameru nous invitent à admirer et remercier à Dieu qui a créé cette nature. Bon, chers amis, voici Hetty Kus Endang avec une chanson intitulée Mahameru. Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.